La chaire Mutation des vies étudiantes, créée à l'initiative du CNUS et de l'École des arts décoratifs de Paris, œuvre auprès des CROUS depuis 2019. Les 6 et 7 juillet derniers, les représentants des 26 CROUS étaient rassemblés à Cachan pour les Journées nationales de l'hébergement. À cette occasion, la chaire a donné à entendre de nombreuses paroles étudiantes. Cette capsule sonore restitue les réactions de certains responsables des CROUS.
Il y avait un carton qui me manquait, c'était colère. J'aurais été plus en colère parce que ça correspond typiquement à ce que je... les retours de terrain lorsqu'on est en discussion croisée avec les étudiants qu'on voit tous les jours. Donc moi j'ai pas eu de surprise par rapport à tout ce qui a été dit, mais vraiment aucune. Mais ce que j'ai retrouvé sur la bande son correspond typiquement à ce qu'on a régulièrement comme retour de certains étudiants, y compris nos enfants, lorsqu'ils sont étudiants. Je suis choqué, mais dans le sens où je suis choqué par la parole de l'étudiant, alors que ça devrait être l'inverse, c'est la parole de l'étudiant qui devrait être un moteur pour qu'on puisse faire évoluer nos perspectives et la manière de travailler.
Ce qui m'a intéressé, c'est effectivement le constat que l'on retrouve à peu près dans beaucoup de témoignages, c'est de ne pas se sentir chez soi. Et ça, c'est vraiment un sujet. C'est-à-dire qu'on prend un logement, mais en définitive, c'est pour souvent y faire, je veux dire, les fonctions élémentaires de la vie, dormir, manger, mais ne pas se sentir chez soi, c'est quand même relativement grave. Alors c'est peut-être aussi de la faute des CROUS, avec des règlements peut-être intérieurs qui ne sont pas totalement adaptés, des baux qui sont courts, d'un an. Donc parfois, est-ce qu'on peut se projeter sur un an? C'est des questions qu'on doit se poser. Et je trouve qu'effectivement, tous ces témoignages nous questionnent. Ouais. On est là pour que l'étudiant réussisse. Et réussir, c'est aussi se sentir bien chez soi. Ouais. Chez soi. Or, on a l'impression, effectivement, qu'ils ne se retrouvent pas, ils ne se retrouvent pas chez eux, ils ne retrouvent pas leur intimité qu'on leur doit, parce qu'à partir du moment où on est dans un logement, c'est un lieu privatif, et on peut comprendre effectivement ce type d'interrogation, et ça questionne vraiment, je veux dire, notre manière de penser le logement. Moi, je me suis toujours posé la question de savoir est-ce qu'on peut leur laisser une marge, une possibilité de personnaliser leur appartement, parce que je pense que se sentir chez soi, c'est aussi personnaliser son logement. Ensuite, bien évidemment, vous avez entendu le rôle important des cuisines collectives, mais il faut vraiment faire des lieux de vie, ce qui n'est pas toujours le cas quand même chez nous. Après, il y a quelque chose qui me paraît extrêmement évident dans notre façon de penser le logement, c'est que beaucoup de résidences sont des lieux de convivialité. Mais ça ne remplace pas l'animation que l'on doit mettre en place. Parce qu'on se rend compte que souvent l'étudiant, parfois ne va pas spontanément dans ces lieux-là, mais s'il y a des animations avec des référents étudiants, des emplois, des services civiques et autres et tout, qui puissent permettre de faire une animation, c'est ça qui crée de la vie. Moi, je ne crois pas à juste à une réponse bâtimentaire ou architecturale. Moi, je crois qu'il faut une réponse qui est globale et qui intègre notamment une présence humaine en termes d'animation.
Là, on parle beaucoup des étudiants, de l'approche des étudiants. Et ce que je trouve aussi dans les CROUS, c'est qu'on a le point de vue des personnels qui est plutôt un frein à ce que pourrait être un aménagement d'un étudiant, enfin d'une chambre d'étudiant. C'est-à-dire que les personnels du CROUS vont se positionner sur bah oui, mais comment on fait le ménage, comment on intervient, comment on gère les clés, par exemple, pour les espaces communs. Il y a aussi, pas une frontière, mais un cap à franchir du côté des personnels du CROUS, peut-être associés dans les démarches, les personnels d'entretien, les personnels qui sont sur les sites pour leur demander déjà leur point de vue, puis aussi les amener à évoluer et à se dire que bah, finalement, pour passer un coup de balai, il y a peut-être d'autres solutions. On pourrait imaginer que des agents du CROUS forment les étudiants sur l'utilisation d'un lieu, sa sécurisation, enfin son entretien. Donc c'est peut-être aussi des choses à faire évoluer dans les mentalités, rajouter des compétences sur les fiches de poste des agents pour aller vers l'étudiant et lui apprendre aussi à se responsabiliser.
On pourrait imaginer, il y a le printemps des lieux éphémères et donc tout le monde se met à construire en lien avec les agents des CROUS des endroits extérieurs qui vont durer pendant la belle saison et qu'on démontrera après par exemple, ça pourrait être sympa. On se disait aussi que quand on construit une nouvelle résidence, on les associe assez peu finalement sur les lieux communs de vie. C'est plutôt, c'est un peu imposé par l'architecte ou par le maître d'ouvrage. Ça pourrait être sympa aussi de dire, en fait, on l'a laissé en friche ce lieu, et puis c'est les résidents qui vont le construire ou y participer, ou on leur soumettra plein de projets, puis ils choisissent ce qui leur paraît le mieux. Alors après, il y a un petit bémol à ça quand même, c'est qu'un étudiant dans une résidence, c'est peu de temps, c'est 10 mois. Dans le meilleur des cas, il va renouveler son bail, mais quand même, c'est souvent des passages un peu éphémères. Et du coup, comment on fait aussi pour que ces lieux, notamment extérieurs, vivent encore? Et là, on a des expériences d'autres CROUS aussi qui disaient, en fait, on l'a inséré dans la vie du quartier. Donc, en fait, c'est aussi la ville participe à l'entretien du lieu de vie. Les résidents voisins, ils viennent aussi. Il y a une association qui entretient les espaces verts en faisant participer les écoles et tout ça. Et du coup, ça vit toute l'année. Mais bon, c'est du coup un peu lourd à mettre en place. Mais voilà, il faut imaginer quelque chose dans le temps. C'est ça aussi qui n'est pas simple.
Par rapport aux témoignages, enfin aux différents témoignages qu'il y a pu y avoir dans la capsule sonore, les différents étudiants, moi j'ai perçu cette notion de sécurité, mais pas forcément au sens forcément de sécurité physique, agression, choses comme ça. Je pense aussi au niveau de la sécurité affective. Et moi, des choses qui m'ont paru quand la jeune dit bon, je ne peux pas me mettre pieds nus par terre dans ma chambre, ou finalement, au-delà de la modularité, je ne me sens pas chez moi, j'utilise un logement qu'on m'a donné mais que je ne peux pas m'approprier, je ne me sens pas en sécurité affective dans ce logement-là, que je puisse mettre un poster au mur ou pas, j'ai envie de dire. Pour moi, c'est pas effectivement la question de la modularité, de l'habitabilité est importante, mais si dans ma tête je ne me sens pas en sécurité dans l'environnement dans lequel je suis, que ce soit au sein de ma chambre ou dans les lieux collectifs que je peux fréquenter, qui sont notamment les sanitaires collectifs, qui sont les douches collectives, l'environnement avec, je ne sais plus lequel disait, l'isolation phonique, le fait d'entendre tout ce qui se passe à l'extérieur, comment je peux m'approprier ce logement-là, finalement, ma propre intimité, je ne peux pas la déployer, je la mets en intimité. J'ai eu des retours d'étudiants sur ce que c'était justement en sécurité affective d'être chez soi et dans le partage des espaces communs qui m'interpellent. Au-delà même de la vidéosurveillance, à aucun moment donné, moi j'ai entendu des jeunes qui m'ont dit « moi je me sens pas en sécurité parce que j'ai peur de me faire agresser ». On n'est pas dans ce terrain-là. Effectivement, ça c'est le discours des agents CROUS, je suis d'accord, il faudrait mettre des caméras de vidéosurveillance partout, fliquer les jeunes qui foutent le bordel. Non, c'est pas ça que forcément remonte l'étudiant. C'est comment est-ce que je me sens bien chez moi, mais effectivement ça sera pas forcément que par la modularité ou le design organisationnel de l'espace, même si je suis convaincu que ça a du sens. Mais voilà, cette question de la sécurité affective et du coup collective dans les espaces qui sont partagés, à mon avis, doit être interrogée. Et on ne peut pas faire l'impasse cette question de la sécurité, y compris sanitaire, physique et affective. Thank you.
la question du care. Comment est-ce que nous, on prend soin des étudiants et comment on leur permet de se sentir bien chez eux et de leur faire comprendre qu'ils sont chez eux. Et effectivement, avec un règlement intérieur de 4 pages dans lequel on leur dit déjà « vous devez faire ceci, vous devez faire cela », mais c'est normal, on est en collectivité, mais malgré tout, il y a sans doute aussi des choses à revoir de ce côté-là pour que déjà l'entrée dans la chambre, l'état des lieux, tout se passe bien et qu'on leur dise « voilà, maintenant vous êtes les clés, vous êtes chez vous ». C'est la même fonction du CROUS. Sinon, on a un bailleur privé, enfin même public, hein, au PHLM ou autre. Hein, je veux dire, on a un bailleur public ou privé et on fait de la sous-location. Si notre cœur de mission du CROUS, c'est justement l'hébergement, la restauration, l'action sociale, le prendre soin des étudiants via, pas seulement les bourses, hein, mais aussi toute l'accompagnement psychologique, la sociale, la prévention de la santé, et ben ça se passe aussi dans la résidence universitaire où on apporte une prise en charge, enfin une prise en charge, je vais exagérer, je viens du médico-social hein, à la base, en tout cas un accompagnement, un soutien et une veille, entre guillemets, de qualité. Et cette fonction du care, elle est occupée par le concierge, par le veilleur, par l'agent d'accueil, par le directeur de la cité, peu importe la personne. Donc, et ce service-là, ce care-là, on doit l'apporter.
Ce que je retiens le plus, c'est la nécessaire participation des étudiants, en fait, à la réflexion préalable. Intégrer les étudiants le plus possible dans toutes les étapes possibles de la réflexion, et surtout la réflexion initiale, quoi. Et les faire vraiment, non pas les consulter une fois qu'on a une proposition, mais les faire participer à la réflexion initiale. Et pas leur présenter un catalogue d'objets en leur disant voilà, vous allez choisir. Non, c'est vraiment réfléchissez depuis le début à ce qui pourrait être fait. C'est ce que je retiens pour ma part.
Il y a un mot qui a réapparu plusieurs fois, c'est associer l'étudiant. Parce qu'il est l'usager, il est celui qui utilise ces salles ou ces espaces en commun intérieurs ou extérieurs. Et je pense qu'il faut vraiment l'associer dans la réflexion. Voilà, on pensait pour lui, mais on doit penser avec lui, avec l'étudiant. Voilà.
Le point de départ, c'était l'intimité. Dans l'intimité, il y avait aussi une question de choix, de lieu et de vie. Donc, et du coup, l'intimité, c'est pas uniquement d'être intime dans son lieu personnel, c'est aussi d'avoir une certaine intimité dans les lieux collectifs. Et du coup, moi, j'avais une ligne directrice, et qui correspond aussi à ma personnalité, c'est que on a besoin d'être intime, même les lieux partagés. Et à partir du moment où il y a des règles, où il y a des impositions, où on impose des choses, on se sent moins libre et on se sent avoir moins d'intimité. L'intimité, c'est pas simplement le fait qu'on peut être isolé, c'est le fait qu'on peut avoir, on peut choisir la vue qu'on veut, on peut choisir la décoration qu'on veut, on peut choisir d'avoir du vide ou beaucoup de meubles dans son logement, ce qu'on retrouve dans la vraie vie quand on commence à être adulte et avoir les moyens. Donc tout le monde n'a pas cette capacité ou cette liberté de choisir, mais finalement on retrouve une intimité lorsqu'on peut choisir exactement ce qu'on veut et comment on veut vivre.
C'était la question de l'intime. C'était la question de l'intime et c'était la possibilité de l'intime.
Et alors, comment on attrape cette question?
On l'a attrapée Ouais, de bien des manières, mais aussi, et pour moi surtout, hein, sur la question du droit à l'intime. Hein, faire en sorte que les espaces privatifs et même collectifs, hein, qui sont les nôtres, garantissent le droit à l'intimité toutes les fois où il en est besoin.
Et du coup, on se dit, bah, droit à l'intime, mais c'est quoi l'intime ?
Ouais, l'intime, je pense que c'est la partie de soi qu'on garde pour soi. Qu'on garde pour soi et qu'on garde précieusement pour soi. Hein, c'est une zone de liberté, à mon sens.
Et cette partie de soi, elle n'est pas définie par l'autre. C'est soi-même qui décide donc quelle est cette partie de soi.
Ouais, c'est vrai, elle peut donc être variable d'un individu à l'autre, et c'est difficile de trouver un dénominateur commun, sûrement, à la question. Hein. Et pourtant, c'est quand même la question à laquelle il faut qu'on réponde, je veux dire, hein, d'arriver à trouver quand même ce dénominateur commun et de savoir le présenter aussi, autrement que par des interdictions, quoi. Ce sont bien une somme de droits, quoi, que ça donne à chacun. Et indiquer aussi comment est-ce qu'on va le garantir, quoi. L'intime, c'est permettre le vivre ensemble. C'est une partie de la réponse au vivre ensemble. Ouais. On a beaucoup insisté sur la question, étrangement, hein, la question de l'intime nous a amené sur le règlement intérieur des bâtiments où on ne sait, hein, pour caricaturer un peu, on ne sait que proposer une somme d'interdictions. On raisonne beaucoup de cette manière. Hein, plutôt de dire ce qui est autorisé, hein, on préfère rappeler ce qui ne l'est pas. Donc en cela, on n'est pas très originaux, quoi. Donc il faudrait qu'on renverse la logique, hein, en indiquant que non, on est plutôt face à une somme d'autorisation. Hein. Voilà en somme tout ce qui est permis et comment est-ce qu'on le garantit, quoi. Donc oui, on verse peut-être dans la facilité. Dans la facilité, hein, toute évidence, hein, c'est bien sûr, hein, plus compliqué, hein, de s'interroger, hein, sur ce qui va être, je cherche le terme, sur ce qui va être épanouissant. Quelque part, on a des résidents, il faudrait qu'on ait des habitants, quoi. Hein. Quelque part, ce qu'on fait, nous, c'est plutôt du prêt-à-porter, hein, quand il faudrait travailler un peu sur du sur-mesure, quoi.
Comme dirait Bergson, si un écrivain savait quel livre il allait écrire dans 30 ans, bah, il l'écrirait tout de suite, quoi. Donc en fait, le Crous, en 30 ans, personne ne sait ce que c'est. Et on va être de plus en plus impacté par l'incertitude, donc j'y crois pas à un modèle idéal. Non, par contre, ce que j'attends beaucoup de la chaire, c'est deux choses. La première, c'est finalement d'être bousculé, voilà, dans les représentations. Et la deuxième, c'est quand même effectivement de l'extrêmement pratique. Donc c'est bien ces échanges de 24 heures, deux fois une demi-journée. Mais moi, je rêve d'une chose, c'est que par exemple, ils viennent nous accompagner sur... On rénove des cuisines dans une cité. On a fait le choix exprès de faire 4 cuisines test. On en a 12 à faire. Donc j'aimerais bien qu'ils puissent nous accompagner aussi, je pense, parce que le regard extérieur permet de faire évoluer des représentations des directeurs de l'unité de gestion et du personnel. Très mobilisé par la gestion. Et voilà, première étape. Et deuxième étape, qu'on se retrouve entre Crous volontaires pour faire le bilan des essais-erreurs.
Et moi, je crois beaucoup dans la recherche et dans les sciences sociales. Donc j'attends beaucoup de cette chaire. Il faut absolument éviter l'écueil, me semble-t-il, de refaire et de redire ce qu'un bureau d'études pourrait très bien faire et dire. Il faut quelque chose de nouveau qui soit en prise avec la jeunesse et ses problèmes et qui soit aussi sans doute le reflet d'un message porté dans le cadre de cette chaire, d'un message de jeunes porté dans le cadre de cette chaire. Voilà. Pour moi, nous sommes là sur des sciences sociales. Voilà, pas simplement design, comment le design, comment l'espace, etc. peut être un élément de réponse. Moi, j'ai beaucoup aimé le travail qui a été fait sur la capsule sonore, parce qu'il y a véritablement une forme de recherche en sciences sociales, une forme presque d'anthropologie, si j'ose dire. Et c'est très intéressant. Et voilà, moi, je suis en attente un petit peu de ça. Attention de ne pas reproduire ce que peuvent faire des bureaux d'études. Voilà, moi je m'apprête à investir, j'ai déjà investi 30 millions d'euros ou 40 millions d'euros, je m'apprête à en investir 130. Je travaille avec des bureaux d'études expérimentés sur de l'optimisation de la recherche architecturale. Je crois que le risque, ce serait de retomber dans quelque chose qui existe déjà. Attention de ne pas. Restons sur une forme d'études sociologiques. D'un milieu, comprendre la mutation, absolument, et puis l'étude sociologique d'un milieu. Mais ce qui serait encore mieux, c'est de renforcer la systémique quoi, de cette étude, plutôt que de. Comment dire, plutôt que de. Oui, le design, c'est bien, ok, mais ça fait pas tout. Moi, ce que j'attends de la chaire, parce que c'est de la recherche, c'est qu'on s'inscrive véritablement dans une perspective systémique. De ce qui participe des problèmes de la jeunesse et des non-étudiants en particulier, qui sont divers. Quoi. Voilà.
En fait, ici, on entend les étudiants, mais on n'entend pas ce qui se passe en dehors et aux abords de la vie de l'étudiant. Mmh. On a entendu l'étudiant dans sa résidence, mais il en reste.